Jean-Christophe, est-ce que c'est la première fois que tu viens sur ce festival?
Oui, c'est la première fois que je viens à Culture Maison. Francesco m'avait déjà invité, mais l'année dernière, l'apocalypse venait juste de commencer. Donc c'était un peu compliqué de venir avec juste deux livres. Donc cette année, c'était un peu plus intéressant, quoi. Voilà.
L'Apocalypse s'est créé il y a en effet il y a environ un an et tu as sorti pas mal de bouquins assez rapidement. Où est-ce qu'on en est maintenant au niveau de la collection ?
Pendant un an et demi avant de sortir les premiers livres, j'ai monté la structure et j'ai vraiment engrangé les projets. Donc il y avait beaucoup de projets qui commençaient à dater un petit peu, donc il a fallu aller vite pour à la fois créer un catalogue, voir, montrer aux gens ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais envie de faire, et puis contenter aussi les auteurs qui attendaient depuis un certain temps. Donc il a fallu aller un peu vite, et du coup ça a été assez problématique, parce que finalement les ventes n'ont pas été tellement au rendez-vous vu le contexte. Qui concerne pas seulement l'apocalypse, donc je pense pas que ce soit non plus le côté qualité et puis un peu cher des livres qui soient mis en cause, parce que c'est global, quoi. Il y a d'autres maisons indépendantes beaucoup plus démocratiques comme Atrabil qui vont très mal également, donc c'est un peu général comme contexte. Enfin bref, l'apocalypse a réduit un peu le rythme. Donc il n'y a que deux livres là qui sortent à la rentrée, deux autres peut-être, ou un seul, je ne sais pas encore, pour Angoulême. Et puis 2014, ben, on verra si on peut passer le cap avec un second souffle ou pas du tout, parce que c'est pas gagné du tout pour l'instant. Le contexte est très décourageant, parce que malgré le fait que je sois minuscule, on ne peut pas être plus petit. Je travaille chez moi, il n'y a pas de local, je ne me paye pas. Seuls les auteurs et un collaborateur sont payés, et évidemment les imprimeurs. Mais donc on ne peut pas être plus petit que ça, et pourtant c'est extrêmement difficile et on ne s'en sort pas. Je commence à me poser des questions sur le système traditionnel de l'édition, diffusion, tel qu'on connaît en France et en Belgique. Parce que bon, je confie mes livres à un distributeur qui les diffuse chez les libraires, mais personne n'a l'air content, les libraires sont pas contents, le diffuseur est pas content, l'éditeur est pas content, personne s'y retrouve en ce moment, parce qu'il y a une surproduction, parce qu'il y a... moins d'achats de livres, parce qu'il y a la menace Amazon, etc., etc. Et bon, ce qui fait que, en fait, faire moins de livres, comme je fais moi, puisque j'ai ralenti la cadence, pénalise, puisque étant donné que je ne sors pas de livres, j'ai plus de retours que de ventes, et donc j'arrive en négatif sur le compte du diffuseur. Donc ça veut dire que les prochains livres que je vais faire et sur lesquels je compte pour renflouer un peu les caisses, ça va juste servir à boucher un trou pour l'instant. Donc le système des retours est vraiment devenu insupportable pour les petites structures. Je ne sais pas, tous les petits éditeurs se posent la question d'un système de rechange, parce que c'est impossible aussi de repasser à l'autodiffusion, comme on l'a pu le faire au début dans notre jeunesse dans les années 90, mais c'est impossible aujourd'hui pour nous. Je pense à Rakam, je pense à Atrabil, je pense à Rocamarteau et même à l'association. Impossible de revenir en arrière et de prendre le téléphone pour appeler les libraires et leur demander combien ils veulent de chaque nouveauté, et puis s'entendre dire j'en veux trois, etc. C'est pas possible de repasser à l'autodiffusion. La diffusion industrielle telle que je la pratique est pas... de plus en plus incompatible avec le genre de production que moi je peux faire, mais il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de structure de diffusion, on va dire alternative, qui prendrait moins de points de remise et qui n'aurait pas non plus un énorme catalogue à proposer aux libraires. Mais la morosité, elle est à tous les étages, là. Édition, diffusion, libraire. Je ne sais pas du tout si on peut sortir de cette période. Il faudrait peut-être une guerre, je ne sais pas. Qu'on perde l'habitude d'avoir des livres et puis que tout d'un coup, il n'y en ait plus que deux par an. Bon, je déconne, mais je sais pas. Du coup, on est presque blasé d'avoir tant de choses et même tant de choses bien. Moi, j'ai du mal maintenant à m'intéresser même à des choses que je trouve très bien ici. Par exemple, la culture maison, je vois plein de petites structures dynamiques, faire des chouettes choses en sérigraphie, ça va dans tous les sens. Mais c'est comme si il y avait une sorte d'indigestion, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui soit autre chose que bien, qui soit différent pour que je m'intéresse. Sinon, je me sens en état un petit peu d'indigestion. C'est terrible, hein. Alors peut-être que c'est le grand âge qui fait ça, je ne sais pas.
Là, tu reviens de Minneapolis où tu es allé faire de la bande dessinée en groupe, dans quelque chose, une forme de workshop, quelque chose qui, pour le coup, doit être un peu vivifiant, non ?
Ça, c'était vachement bien. C'était le quatrième Pierre-Feuille-Ciseaux, organisé par June, qui est ici à Culture Maison. Donc, les trois premières éditions étaient en France, à la Saline d'Arc-et-Senans. Et à la troisième édition, il y avait deux auteurs américains qui étaient là, Zach Sally et Anders Nielsen, qui, en fait, sont enseignants au Collège d'art de Minneapolis et qui ont proposé et réalisé, fait en sorte que ça existe, de faire la quatrième édition dans leur école au mois d'août, là, début août, à Minneapolis. Donc ça s'est fait, il y a eu une dizaine d'auteurs francophones et une dizaine d'auteurs anglophones qui se sont retrouvés une semaine en résidence à faire de la bande dessinée ensemble. Sous contrainte, ça se passait de manière très simple. Parfois, quelqu'un proposait un exercice. Il était suivi par une partie des gens, ou peu, ou pas du tout. Ça allait dans tous les sens. Les gens ne se connaissaient pas forcément au début, sont devenus très amis. Il y a eu des groupes qui se sont formés. Il y a un livre en sérigraphie, tirage limité, qui s'est fait en une semaine sur place, et ça s'est terminé avec la première édition d'un festival local très très proche de ce qui se passe ici à Culture Maison, qui s'appelait Autoptique. C'est la première édition d'un festival indépendant de bande dessinée, et il y avait aussi quelques labels de musique qui me fait beaucoup penser à ici. Il y avait juste un peu plus d'espace et un peu plus d'exposants. Il y avait la plupart des étudiants qu'on a vus à l'école avaient chacun leur petit stand avec leurs petits zines autoproduits qu'ils avaient fait pour l'occasion à 30 exemplaires avec les massicots de l'école. Enfin, c'était charmant. C'était vraiment chouette. Et ce genre d'expérience-là, oui, là par contre, ça change de l'ordinaire et ça donne espoir. Je pense que le fait de se retrouver vraiment, de se réunir à plusieurs dessinateurs et de créer ensemble, c'est très important. C'est beaucoup plus riche que se retrouver simplement dans un festival, derrière des tables, à essayer de vendre ce qu'on a produit. Donc ça, c'est peut-être là où on peut arrêter d'être blasé et puis où on peut sortir de l'indigestion. Et c'est dans des expériences comme ça, je pense.
Est-ce que toi, ça te fait réfléchir sur ta méthode de production ? Je sais que tu as quelqu'un qui a beaucoup bossé sur l'autobiographie, sur quelque chose de très santé, sur un passage au scalpel de ta propre vie. Et donc ici, le fait de travailler collectif, etc., c'est quelque chose qui produit d'autres choses pour toi ?
Oui, dans le sens où, mais ça peut pas être que ça, mais c'est parce que la vie créative d'un auteur de bande dessinée, c'est quand même dans la solitude. Donc le fait de pouvoir rompre cette solitude à une vingtaine de personnes et puis de faire des choses ensemble, il y a un côté libérateur vraiment. Mais ça ne peut pas non plus tout d'un coup, on ne peut pas tout d'un coup vivre en communauté de dessinateurs, dessinatrices et puis arrêter de faire des choses en solitaire. Ça me paraît. Enfin, peut-être qu'il faudrait essayer. Hein. À ce moment-là, on change complètement de système et on le fait à la GB. On arrête tout, on réfléchit, on fout tout en l'air et puis on arrête de faire des choses dans notre coin et on fait tout ensemble. Mais ça, c'est la révolution, ça s'appelle. Donc pourquoi pas ? J'en suis à un stade où je me pose vraiment ce genre de questions. Là, je suis en train d'essayer de terminer un projet à la fois d'éditeur et d'auteur sur lequel je suis depuis presque 2 ans. J'espère le sortir pour Angoulême, mais bon, je préfère pas l'annoncer pour l'instant, tellement j'ai déjà annoncé et retardé. Mais c'est un projet, une sorte de fausse reliure de Moon Comics, qui était mon fanzine fétiche, un peu comme un recueil Spirou de mon enfance, où là je mets un peu tout, quoi. C'est-à-dire qu'après la thèse où j'ai tout mis à plat, je reprends un peu tous mes axes, l'autobiographie, les réflexions sur la musique que j'avais commencé avec Lock Groove, les fictions de mes histoires de moines, de mon vérité, des strips, des formes courtes. Donc beaucoup de choses courtes, mais surtout mes registres, et finalement ça se mélange, il y a des rêves, il y a de la réalité, il y a de la fiction, et je lance un peu toutes ces pistes-là et ça se mélange, ça fait une sorte de comment dire, d'antithèse après la thèse, quoi, mais uniquement au niveau pratique, dans le sens où qu'est-ce que je peux faire après avoir tout décortiqué, tout analysé dans la thèse, je reprends ma pratique un peu à zéro sur tous les fronts, je mélange tout avec comme avec un shaker et je vois ce qui retombe, je vois quel goût ça a, quoi. Ce sera mon prochain et peut-être dernier livre de bande dessinée avant un certain temps, je sais pas. En tout cas, il y aura une boucle de fête avec mon tout premier livre qui était déjà une reliure de fanzine, le journal de la peau, que j'avais autopublié en 1985, si mes souvenirs sont bons. Voilà.
Eh bien, et donc... Il n'y a pas longtemps, tu disais, la bande dessinée n'a pas fait sa modernité, donc elle a encore de l'avenir. Et là, tu as un moment où tu le penses encore, là, maintenant, aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il y a toujours énormément de choses à découvrir dans le langage, au niveau du langage de la bande dessinée. Mais ce qui est un peu décourageant, c'est de voir cette forme toujours un peu galvaudée, toujours finalement ramenée à des clichés, enfin... Par exemple, enfin, je vois ce qui a été fait avec l'association, c'est-à-dire l'ouverture à l'autobiographie. Je vois ce que ça devient, c'est-à-dire maintenant, ça devient essentiellement beaucoup de livres avec une sorte de petit pitch qui plaît aux journalistes, des reportages dans des pays à risque ou bien des autres sortes d'autofiction. Qui n'ont plus rien à voir avec la vraie autobiographie où on se met en danger, quoi. C'est ce genre de livre-là maintenant qui fait parler les journalistes, qui se voit un peu, et c'est un peu une avancée qui a existé il y a une quinzaine, maintenant presque vingtaine d'années, et qui est à son tour un peu galvaudée. C'est comme si tout était toujours à recommencer, quoi. Donc c'est un peu fatigant. Mais si on prend le langage de base, c'est-à-dire du dessin, plus du texte et encore pas forcément plus de la séquence, tout reste presque à faire, quoi. Même si on peut dire qu'au début du XXe siècle, Mackay et Riemann avaient tout fait, on peut aussi dire que tout reste à faire. Malgré tout ce qui a été fait, malgré toute cette surproduction de choses dispensables ou bien juste bonnes à mettre à la poubelle, et malgré aussi l'énorme bonne production qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai que je pense que ce qui rend la situation je suis pas dépité, je suis pas, c'est ce qui rend les choses plus compliquées, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de bonnes choses, je pense, en bande dessinée. Et dans cette surproduction, il n'y a jamais eu autant de bons livres, il n'y a jamais eu autant de nouveaux auteurs, de nouvelles structures, de bonnes choses, mais la surproduction est telle que, par exemple, si y a un roulement tellement rapide, un turnover tellement monstrueux dans les librairies, que si je ne vais pas chez mon libraire, qui est un bon libraire et qui prend les bons livres pendant 6 semaines, eh ben, y a des livres que je ne verrai jamais, dont je ne connaîtrai même pas l'existence, parce que tout va trop vite. Elle est loin, la période où je pouvais tout savoir de ce qui se passait en édition indépendante, quoi. Là, il y a des structures, je ne sais même pas qui c'est, je les découvre, des auteurs, je ne sais pas qui c'est, des choses souvent très très bien, mais c'est devenu presque aussi riche que la littérature, et donc forcément c'est un peu comme si on abordait le monde du livre littéraire comme ça. Bon bah voilà, des structures, il y en a des centaines, des milliers, il y a plein de choses intéressantes qui se font, il y a plein de petites merveilles, mais parfois il faut fouiller très très fort pour les trouver, pour trouver les choses différentes. Et je pense que la destinée de la bande dessinée, c'est ça aussi, si tant est que la forme livre perdure à plus d'une génération. On peut espérer ça aussi.
Ce festival, tu le sens bien? Ça s'est bien passé jusqu'à présent?
Bah, c'est très sympa au niveau des exposants, au niveau de ce qui est montré, des expositions, du choix... De tout ça, Francesco de Fourny a fait un travail super, mais c'est vrai que c'est plutôt un moment sympathique qu'un moment commercial, mais finalement l'important c'est de passer un moment sympathique et avec les amis. C'est mieux que de vendre plein de livres entouré de crétins.
Ok, bien, merci et bien sûr.